François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, vous êtes le vice-président du Mémorial de la Shoah. On va revenir avec vous sur le résistant d'origine arménienne, Missak Manouchian, et son épouse, Méliné, qui sont entrés la semaine dernière au Panthéon. Un hommage ultime pour ces combattants de l'ombre, longtemps oubliés, et symboliquement, ces 23 compagnons d'armes, des francs-tireurs partisans, main-d'œuvre immigrés, les fameux FTP Moy, y ont aussi fait leur entrée par l'inscription de leur nom à l'intérieur du monument sur une plaque dans le caveau numéro 13. Parmi les combattants fusillés en même temps que Missak Manouchian, la plupart étaient eux aussi des étrangers, polonais, hongrois, italiens, espagnols, roumains et juifs pour la plupart d'entre eux.
Tout à fait, c'était beau que la République se rende hommage à ces résistants étrangers, patriotes qui sont morts pour la France, qui avaient été souvent un peu oubliés. Et comme vous l'avez rappelé, ils étaient 23, c'est les 23 de l'affiche rouge. En fait, sur l'affiche rouge, il n'y en avait que 10. C'est cette affiche qui a été apposée par les Allemands sur les murs de Paris pour montrer la soi-disant armée du crime. En fait, c'était l'armée de la libération. Et en fait, le chef de ce groupe militaire, qui était le groupe militaire FTP Moy de la région parisienne, était Missak Manouchian. Donc c'est lui qui rentre au Panthéon avec son épouse, comme vous l'avez dit, Méliné, mais accompagné des 22 autres qui ont été exécutés avec lui. Il y en a 21 qui ont été exécutés le 21 février 1944, donc il y a juste 80 ans avant la panthéonisation. Et il y en a une, Olga Banchi, qui a été, elle, décapitée dans la prison de Stuttgart le 10 mai 1944. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je souhaitais l'évoquer ce soir, si vous l'avez dit que j'étais vice-président du Mémorial de la Shoah, nous avons inauguré au Mémorial de la Shoah, pour correspondre à cette panthéonisation, une exposition absolument passionnante, depuis le 2 février, qui s'appelle « Les étrangers dans la résistance », et qui rend hommage justement à ces groupes des FTP Moy, qui étaient des groupes principalement communistes, qui ont joué un rôle très actif dans la résistance armée, notamment en région parisienne, et cette exposition retrace leur parcours. Il y a énormément de photos, il y a énormément de documents, il y a aussi des archives de la police, parce qu'elles ont été arrêtées par les brigades spéciales de la police parisienne, qui les ont remis aux Allemands pour qu'ils soient jugés puis exécutés, et donc on a des documents d'archives qui sont passionnants, et puis il y a les portraits de ces grands résistants, au-delà de Missak Manouchian qui était le chef du groupe militaire. Il y a d'abord le portrait de Boris Holban, qui était le chef du groupe Manouchian avant que Manouchian en prenne la direction, et qui l'a remplacé quand Manouchian a été arrêté. En fait, son vrai nom, c'était Baruch Bruchman, c'était un juif ukrainien. Il y avait Joseph Epstein était un juif polonais né à Varsovie, qui était un ancien des brigades internationales, et qui était en fait le chef de tous les groupes FTP Moy de la région parisienne. Il était au-dessus, c'était le chef de Manouchian. D'ailleurs, il a été arrêté avec lui, mais les Allemands n'ont pas compris que c'était lui. Ils cherchaient Epstein, mais ils n'ont pas compris que c'était lui. Comme ils l'ont arrêté avec Manouchian, ils l'ont fusillé, mais ils n'avaient pas compris qu'ils avaient attrapé le grand chef, et on voit son parcours. Il y avait aussi Christina Boisco, née Biaca Marouchka, qui était une juive roumaine. Elle était le chef du service de rationnement. Après la fin de la guerre, elle était la chef de la zone nord FTP. Elle a survécu, et on retrace son parcours, parce que c'est important. Il y avait aussi Olga Banchik, dont je vous ai parlé, qui a été décapitée, qui était une juive roumaine, et qui a écrit une lettre bouleversante qu'on montre au mémorial, où elle écrit à sa fille, avant d'être décapitée à la hache. Et c'est une lettre d'adieu absolument bouleversante. Il y a aussi Joseph Bosco, son vrai nom c'était Ferenc Wolf, un juif de Transylvanie, c'était le chef des dérailleurs, c'est lui qui faisait dérailler les trains, et notamment le dernier train qu'ils ont fait dérailler sur la ligne de Nangy en Seine-et-Marne. Et enfin, il y avait Marcel Reymann, le numéro 2 de Manouchian, plus très connu. Et d'ailleurs, il est honoré à Paris, dans le quartier où il est né, de la rue des immeubles industriels dans le 11e. C'était un juif polonais. Et lui, c'était le chef de l'exil spécial, c'était le chef des tueurs, et notamment, il a tué le général allemand Julius Ritter, et c'était un des grands actes de la résistance à Paris. Et donc, c'est une très belle exposition qui a démarré le 2 février, qui dure 6 mois, donc je vous encourage à aller le voir au Mémorial de la Shoah. Les entrées sont gratuites, c'est ouvert tous les jours, sauf le samedi.
Alors, on change de sujet. En France, un nid d'espions dans les plus hautes sphères de la République, au plus fort de la guerre froide. Et même après, alors que les relations avec l'Ouest se sont normalisées, le bloc soviétique rassemblé autour de l'URSS avait réussi à pénétrer au plus près des élites françaises, notamment grâce au service d'espionnage de ce qui s'appelait encore avant la Tchécoslovaquie. Et d'ailleurs, un journaliste, Vincent Jouvert, en apporte la preuve dans un livre qui paraîtra le 1er mars prochain et qui a pour titre « À la solde de Moscou, politique, journaliste, haut fonctionnaire, révélation sur ces Français qui espionnaient pour l'Est ». Alors l'Express, Le Point, Le Monde ont récemment publié des enquêtes montrant des journalistes très connus ayant travaillé pour le KGB puis le FSB et cela semble continuer alors que nous sommes en pleine guerre, la Russie qui a envahi l'Ukraine.
Tout à fait, Pierre. Et d'ailleurs, la conjonction de cette couverture du Point, Le Point a consacré, comme vous l'avez dit, son numéro de la semaine dernière, absolument passionnant, aux bonnes pages du livre de Vincent Jauvert, La solde de Moscou, où, qui montre ces Français au service de l'Union soviétique et de la Russie. Et puis, il y a aussi l'Express qui révèle que Philippe Grimbach, qui était le numéro 2 de l'Express, du temps de Servan Schreiber jusqu'en 1982, était directeur adjoint de la rédaction, était un agent de depuis 1947, des services russes. C'était un agent absolument clé. Son surnom d'agent, c'était Brock. Il était très proche de Mitterrand. Il était très proche d'un certain nombre d'hommes politiques. Et il a donné des renseignements absolument clés à l'Union soviétique. Il y avait aussi Georges Pasquier, qui était directeur de l'information de l'OTAN, proche de Charles Hernu, ministre de la Défense. Et puis, dans le monde journalistique, c'est intéressant, parce qu'on va peut-être y revenir, il y avait des journalistes à la solde de Moscou. Il y avait notamment des journalistes célèbres. Les personnes plus âgées qui nous écoutent se rappelleront d'eux. Il y avait Paul-Marie de la Gorce, chef de la rédaction internationale de Radio France, qui est après grand journaliste au Figaro. Il y avait Gérard Carrérou, non connu, qui a été patron de l'information de TF1. Alors, dans l'article du Point, Gérard Carrérou dit que ce sont des mensonges, que ce sont des faux papiers, etc. Mais l'enquête de Vincent Jauvert est absolument remarquable. Il était allé aux archives en Angleterre. Et en Angleterre, il y a un chef des services soviétiques clés qui est passé à l'Ouest et qui est passé avec toutes les listes des agents payés par Moscou. Alors, plus récemment, l'espionnage russe continue. Il y a notamment un prof à l'école spéciale de journalisme qui travaillait pour les Russes. Il y a une journaliste qui a travaillé pour le monde diplomatique qui s'appelle Olesya Orlenko, qui travaille pour les Russes. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'hommes politiques qui ont été payés, financés par les Russes, comme Florian Philippot, du Rassemblement National, Asselineau, qui a été candidat au présidentiel, Frédéric Chatillon, très proche de Marine Le Pen, ça c'est pour l'extrême droite. Mais il y a aussi le conseiller de Mélenchon, Kuzmanovic, qui est très proche des Russes et payé par les Russes. Et donc, on voit très bien les filières de financement occultes des Russes pour influencer à la fois la politique française, mais aussi pour recueillir des renseignements au plus haut niveau de l'État. Et ça fonctionnait, et ça fonctionne toujours, et c'est très inquiétant parce que, comme vous l'avez dit, nous sommes toujours en guerre, et comme l'a rappelé de manière très forte le président de la République, avec la Russie qui menace l'Europe et qui a envahi l'Ukraine.
Oui, et puis, il y a une autre réflexion à faire aujourd'hui, c'est l'influence du Qatar également dans les plus hautes sphères. Et il serait intéressant aussi de mener en parallèle une enquête sur l'influence du Qatar, notamment en France. L'émir du Qatar est actuellement en visite d'État à Paris.
Tout à fait, et il y avait un très bon livre de Georges Malbruno il y a quelques années qui s'appelait « Nos amis les émirs » et qui montrait l'influence forte du Qatar auprès d'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques comme Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, Dominique de Villepin, et aussi l'entrisme qu'ils ont via leurs investissements en France, l'investissement de Paris Saint-Germain qui est un levier politique. Je dirais que la mairie de Paris est un peu coincée avec le Paris Saint-Germain et le Qatar. Et enfin, on l'a vu hier, vous l'avez tout à fait raison, Pierre, l'émir du Qatar a promis 10 milliards d'investissements en France dans pas mal de secteurs industriels. C'est une manière d'acheter de l'influence, de la présence. Et puis, il faut toujours se rappeler que le Qatar, c'est le propriétaire d'Al Jazeera, qui est une chaîne de propagande pro-palestinienne. Et sur sa fréquence arabe en langue arabe, c'est même une chaîne qui prône la charia et qui prône le djihadisme. Et donc, c'est effectivement un pays dont l'influence dans la classe politique et dans la classe médiatique française pose un énorme problème. Il y avait d'ailleurs une enquête passionnante sur les influences du Qatar en France la semaine dernière dans Libération, et je vous encourage à la lire, une enquête de Sophie Desdésert, très approfondie et vraiment passionnante.
la Shoah n'est pas si spéciale que cela. Comment l'antisémitisme a submergé les universités américaines? Slogan haineux, harcèlement, c'est l'explosion depuis le 7 octobre de propos et d'actes anti-juifs sur les campus américains acquis aux idées woke. Les États-Unis sont confrontés à une vague de haine anti-juive sans précédent, là où elle était le moins attendue, dans ces temples supposés du savoir que sont leurs collèges, les institutions d'enseignement supérieur, et certains, même aujourd'hui, parlent de réguler l'entrée des étudiants juifs américains.
Tout à fait, c'est absolument sidérant, parce qu'à l'inverse, la France est assez exemplaire sur le sujet, parce qu'en France, on a des lois républicaines, on a des codes de conduite, l'antisémitisme est illégal, l'apologie du terrorisme est illégale, et donc quand ça se passe dans les universités, j'en sais quelque chose, en tout cas Sciences Po, on a eu quelques cas, mais les étudiants passent en commission disciplinaire et s'exposent à des poursuites pénales. Aux États-Unis, il y a une sorte de zone de non-droit sur les universités, et justement, il y a pas mal de réflexions dans certains États pour justement que ça arrête de cesser d'être des zones de non-droit, et que des règles d'éthique, de comportement, de non-discrimination, de non-harcèlement soient appliquées. Notamment Harvard, qui a fait défrayer la chronique, c'est en train de bouger. Le nouveau président d'Harvard a pris un certain nombre de mesures. Il y a un comité de lutte contre les discriminations et de lutte contre l'antisémitisme qui s'est mis en place. C'est une bonne chose, mais il faut aller encore plus loin. Mais Harvard commence à comprendre aussi les conséquences économiques de son inaction et de sa tolérance, notamment en octobre et en novembre, face aux exactions antisémites qu'il y a eu sur le campus américain de Boston d'Harvard, puisque l'année dernière, en 2022, Harvard avait collecté 2,2 milliards de dollars de dons de ses anciens élèves, et cette année, ces dons ont baissé d'un milliard de dollars, donc c'est des sommes absolument gigantesques. Par contre, à nouveau le Qatar a versé sur les trois dernières années 5 milliards de dollars à l'ensemble des universités américaines. Donc effectivement, l'argent est très important dans l'enseignement supérieur américain, puis ça permet de financer les salaires des professeurs, de la recherche et du développement. Et donc l'influence néfaste du Qatar est un combat assez dur sur ces sujets-là. Et hier, à l'université de Berkeley, donc l'université très connue de San Francisco, il y a eu un incident antisémite violent où il y avait un Israélien qui venait présenter un peu ce qui se passait en Israël et à Gaza. Et il y a des manifestants pro-palestiniens qui sont arrivés, qui ont porté des coups, il y a un étudiant qui a été grièvement blessé, il y a des protestations. Et donc, effectivement, les étudiants juifs dans les universités américaines sont inquiets. Et comme vous l'avez dit, Pierre, en plus, quelque chose d'absolument incroyable. Il y a une réflexion de certaines universités par des groupes de lobbying de pression qu'il y a peut-être trop d'étudiants juifs dans les universités. Ben oui, il y a parfois beaucoup d'étudiants juifs dans les universités parce qu'ils sont des bons étudiants. Et donc, il y a une réflexion sur une logique de quotas, ce qui, je pense, ne passera pas aux États-Unis. Mais rien qu'on puisse soulever cette idée est un scandale absolu. Et il faut rappeler aux États-Unis que cette règle de quotas existait avant 1920. Il y avait un quota pour les étudiants juifs à Harvard ou dans d'autres universités américaines. On ne va pas revenir 100 ans à l'arrière. Et j'espère que les Américains vont retrouver raison. En tous les cas, la seule chose qui est rassurante, c'est que 82% des Américains, c'est un sondage qui est paru de l'American Jewish Committee il y a quelques jours, 82% des Américains soutiennent Israël et son but de guerre, qui est la destruction du Hamas. Donc on peut espérer que ces exactions dans les universités sont un épiphénomène, mais il faut se poser des questions sur l'influence néfaste des réseaux sociaux et de certains groupes d'influence et de pays d'influence comme la Russie, le Qatar, l'Iran, la Chine, qui par les réseaux sociaux diffusent une campagne de haine contre Israël et contre les Juifs.
François Heilbronn, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes le vice-président du Mémorial de la Shoah. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.